c'est Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez
nombreux... No problemo!
Camarade, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève.
Il sait pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
Hola, 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 nous sommes un tout petit peu en retard. On se permet donc de couper notre splendide générique. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du jeudi 11 avril 2019. Et j'ai le plaisir, la chance d'être avec mes deux camarades de la causerie. Émission fantastique du dimanche. J'ai nommé au micro bleu Fabien, bonsoir.
Bonsoir Delphine.
Et à la technique au micro jaune Jean-Yves.
Bonsoir.
Voilà. Nous saluons Laurent qui est allé en déplacement professionnel. Enfin, non, il n'est pas parti en vacances, je certifie. Nous allons vous parler de plein de choses. On ira pas mal à l'international cette semaine. Au Soudan, en Corée du Sud, à Hong Kong. On retournera en Arabie Saoudite, donner suite à ce que je racontais la semaine dernière. Nous parlerons d'exécution de barbares. Donc, on parlera peut-être aussi un peu de profiteurs avec, j'ai nommé les boléros, les bolés. J'ai fait un mix. Les bolorés, les Monsanto et Frédéric Mitterrand. Si on a le temps. Les profiteurs, il y en a de partout. Il n'y a pas que les multinationales. J'ai décidé d'élargir le champ de ce concept profiteur. Et puis, on finira peut-être un peu par des histoires de lutte pour terminer. Enfin, toujours est-il que je voulais donner la parole à deux personnes. Alors, il y en a un, il va devenir un peu chronique dans cette émission. C'était un peu déjà le cas, parce que Laurent, il est un peu comme moi. Et j'ai nommé le monsieur Laurent Wauquiez, qui a été à la télé. Alors, il a beaucoup retweeté ce qu'il avait dit à la télé. Et il a retweeté un truc que moi, j'ai trouvé magnifique. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Donc, je vous le dis à vous. Nous ne pouvons pas laisser entrer en Europe des produits ne respectant aucune des normes environnementales que nous nous imposons. Nous, les Républicains, proposons l'instauration d'une barrière écologique. Alors...
C'est une barrière.
Une barrière, donc une barrière chez nous, ça fait frontière, tout de suite. Et donc, il a trouvé une excuse pour nous mettre une frontière. Mais elle est écolo. Sachant, c'est donc le greenwashing à la barrière. Vous voyez, ça m'a fait tilt
c'est
un peu.
C'est le greenwashing nationaliste. C'est
voilà.
Pas mal, hein.
Et alors, en nationaliste aussi, j'ai trouvé donc du RN, Rassemblement National, qui était l'invité de France Info, Jordan Bardella, ce jeudi, qui a dit Frontex finance des campements de migrants, notamment en Grèce, à Lesbos, et Frontières se comporte comme une hôtesse d'accueil. Oulala, oulala. Alors déjà, comment dire, pour les migrants, c'est un problème. Et puis il y a l'histoire d'hôtesse aussi. Là, c'est un peu, c'est curieux quand même.
Racisme et sexisme dans la même phrase. Fallait le faire.
Fallait le faire. Alors moi, j'ai envie de lui répondre par cette petite citation. Le racisme et la haine ne sont pas inscrits dans les péchés capitaux. Ce sont pourtant les pires. Et oui. Jacques Prévert est mort un 11 avril. Donc je me suis dit que nous pouvions peut-être. Non, pas lui rendre un hommage parce qu'il n'aimait pas ça. Hein, vous savez, c'était un... Aujourd'hui, il y en a malheureusement qui ont piqué le mot, mais c'était vraiment un insoumis. Il faut se souvenir, il est mort en 77, 1900, l'autre siècle. Et il est né en 1900. Donc, un homme qui a été dans le groupe Octobre, les surréalistes, tout ça, si vous ne connaissez pas, plongez-vous un peu là-dedans. Qui a été beaucoup du côté des ouvriers, les grèves Citroën, tout ça. Il a fait absolument des choses merveilleuses. Il n'aimait pas qu'on dise qu'il était poète, pourtant c'est bien ce qu'il a fait, de la poésie, mais il disait qu'il était un artisan, c'est un gars qui avait vécu pendant très longtemps dans des petits hôtels, dans des meublés, jusqu'à finir par acheter une baraque, un peu dans les 70, du style, il est mort un peu après, il s'est un peu posé, il a écrit pour le cinéma, il a écrit des spectacles, des textes, voilà, il a écrit des choses, moi, que je trouve très très belles. On dit souvent qu'il était libertaire, mais parce qu'il n'aimait pas l'autorité, la hiérarchie, ça l'emmerdait. Et puis, il était anticlérical d'une manière assez...
viscérale.
Ouais. Mais en même temps, il avait une bienveillance en lui qui permettait de faire passer toutes ses idées. Et c'est en ça où c'était un poète, je trouve. C'est qu'il avait vraiment cette capacité tranquille. Une autre époque aussi, peut-être quand on écoute, parce que les sons sont évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous voyez, moi par exemple, je parle très très vite. C'était pas du tout le cas de Jacques Prévert. Et puis, il est mort d'un cancer du poumon, mais si l'image de l'homme tranquille, ça clope à la bouche tout le temps. voilà, donc c'est, on en reparlera peut-être un petit peu si on peut dans cette émission. Mais Fabien, tu avais aussi un sujet qui était le même que le mien, que tu avais dans ta petite liste. C'est oui. qu'on s'est dit qu'il y avait quand même pour nous un sujet majeur aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au Soudan.
Ah oui, parce que bon, alors le Soudan, moi j'ai fait un tout petit retour en arrière pour les gens, parce que souvent personne n'est au courant de ce qui se passe au Soudan. En fait, au final, tout simplement. Alors en fait, je vous rappelle juste qu'il y a 30 ans, il y a un gars qui avait fait un coup d'état militaire, hein, qui s'appelle Omar al-Bashir, qui avait pris le pouvoir il y a 30 ans. Et en fait, 30 ans plus tard, il y a des gens qui en avaient un peu marre de l'avoir au pouvoir. Et ces gens en particulier, bah, c'est les jeunes et les femmes du Soudan qui ne supportaient plus cette dictature, parce qu'on va appeler ça comme ça doit s'appeler, c'est une dictature. Et donc, en fait, depuis maintenant bientôt 4 mois, il y a des manifestations très régulières au Soudan. Et à chaque manifestation, il y a des gens qui se font arrêter et qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a donc des prisonniers politiques. Juste quand même pour se rendre compte d'une chose, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, ça a été le triplement du prix du pain. Qui a été décrété unilatéralement par le pouvoir en disant il faut freiner l'inflation, on triple le prix du pain. Voilà, tout va bien. Juste, on ne se rend pas compte en tant que Français ou d'Occidental, au Soudan, en fait, le pain, c'est la base de l'alimentation des Soudanais. Et donc, en fait, ce n'est pas juste vous tripler la baguette, c'est vous tripler la base de ce qui permet de s'alimenter tous les jours. Donc en fait, depuis 4 mois, il y a des manifestations, et depuis 6 jours en particulier, les gens ont décidé d'aller faire le siège. J'ai perdu le nom de ce truc là, pardon, ça va me revenir. Du MIST, je crois, c'est ça. Ah, je l'ai plus. Pardon.
Tu veux dire parce qu'ils ont fait un raid sur le renseignement.
C'est ça, le service des renseignements.
Le NISS.
Voilà, NISS, voilà. Le NIS, donc du coup.
Oui, c'est ça.
Pardon. Et donc du coup, ils sont. Mais alors, pourquoi ils y sont allés? Parce que, comme je vous le disais, il y avait des prisonniers politiques, il y a des gens qui disparaissaient. Et quand je vous dis qu'ils disparaissaient, c'est pas quelques personnes, c'est des dizaines, et voire des centaines de personnes à chaque manifestation qui disparaissaient. Et en fait, les gens ont dit, on va aller les chercher. Donc, ils ont fait le siège pendant 6 jours du fameux NIS, qui est le service de renseignement intérieur du Soudan, et qui est donc dirigé par l'armée. Et aujourd'hui, l'armée dit répondre au peuple en disant, OK, on a compris, vous ne voulez plus du président, c'est pas grave, on va prendre la place. Donc voilà, donc ils ont destitué Omar al-Bashir, ils l'ont enfermé, a priori, on ne sait pas trop où il est, mais ils l'ont enfermé, hein, voilà. Mais surtout, ils ont fait un coup d'état militaire sur le dos d'une révolution, on peut dire
c'est exactement
chose,
ça, ouais.
En disant, pendant 2 ans, on suspend la constitution, les élections, et c'est nous qui gérons le pays.
Moi, c'est ça que j'ai noté, c'est qu'effectivement, 2 ans.
2 ans, c'est très long.
C'est long, hein. Ça laisse à des gens de quoi s'installer durablement par la suite. Hein.
C'est le but.
C'est une longue période de transition.
Ouais, alors il y a un cessez-le-feu.
Il y a un cessez-le-feu qui a été décrété. Ils auraient libéré les prisonniers politiques aussi.
Ça, c'est ce qu'on a entendu d'après. Voilà. Ouais, ça a été rapporté par des témoignages, l'AFP. Bon.
Alors, libérés en plein désert.
Oui, non, mais attends.
Ils ont été déposés comme ça et voilà. Débrouillez-vous, quoi.
Alors c'est dommage, évidemment, parce que ce qu'il y avait aussi de notable dans cette révolution, c'est que beaucoup de femmes étaient aussi dans la rue, et ça a été noté un petit peu par toutes les personnes présentes étrangères sur place, en particulier les journalistes, c'est de dire les femmes étaient vraiment à la manœuvre, et quand je dis à la manœuvre, c'est pas de la manipulation, c'est vraiment, elles sont montées sur les tribunes, elles ont pris la parole, elles ont incité d'autres femmes à sortir dans la rue et à s'impliquer. Et ça, c'était aussi un mouvement important populaire qui n'était pas mené, comme dans certains pays religieux, par des hommes qui, à un moment, volent leur liberté. Là, c'était aussi un mouvement populaire mené avec les femmes.
Il y avait même des slogans au Soudan qui étaient « ni l'armée, ni la religion ». Donc on était clairement dans l'idée d'une envie de démocratie, même presque de laïcisation du pays, quoi.
Ouais, parce que le Soudan, c'est un pays dont on a arrêté de parler depuis que les gens ils ont l'air de manger, depuis qu'il n'y a plus cette guerre civile. Enfin, il y a toujours des problématiques, mais on a beaucoup parlé de ça, et puis on s'est arrêté d'en parler. Puis en plus, c'est un pays un peu compliqué, ils sont noirs, ils sont musulmans, ils sont arabes, ils sont un peu en plus entre deux terres, et traversé par plusieurs cultures, et ce qui fait que on a du mal à en parler ici, parce que c'est un pays qu'on connaît pas bien d'une manière générale, hein, dans la presse on en a parlé que pour les horreurs et très peu pour le reste. Donc là, moi j'avais espoir quand même que ce mouvement amène aussi à une ouverture et donc à une transmission des uns et des autres de nos cultures respectives.
Bah après,
disons que là c'est kaki quoi pour l'instant.
Ouais voilà, il faut pas oublier que l'armée elle a beau jeu parce qu'elle s'appuie sur une toute petite manifestation qui était minuscule où il y avait une centaine de personnes qui en appelaient à l'armée. Et très clairement c'était pas la majorité des manifestants. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça a été monté de toutes pièces, hein, que le but c'était de créer une sorte de préalable pour dire ah bah vous voyez c'est des manifestants qui nous ont demandé alors du coup on prend le pouvoir, hein, on est pas méchant. Clairement c'est de la manip, hein, tout le monde le sait. D'après ce que j'ai entendu juste avant de venir, il y aurait des manifestations en ce moment au Soudan pour dire non, on ne veut pas l'armée non plus. La crainte, c'est que l'armée tire, parce que clairement, ce n'est pas des gens très sympas. Et en fait, il faut voir aussi géographiquement ce qui se passe. C'est, en fait, le Soudan s'inspire d'un pays qui est tout juste au-dessus de lui, c'est l'Égypte. Et en fait, ils se disent, en fait, on n'a qu'à faire comme Sissi. C'est-à-dire qu'on rétablit la paix, on dit que tout va bien, et puis dans 2 ans, on fait des élections qu'on noyote un petit peu, et puis comme ça, ben, on saura qui est élu, parce qu'il ne faut pas être embêté. Vous voyez, c'est un peu le truc. C'est un peu ce qui s'est fait aussi en Algérie. Donc on voit que c'est ouais, ils ont du, comment dire, de quoi s'inspirer. C'est pas anodin de faire ça comme ça et de le faire maintenant, en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça permet, que ce qui se passe en Algérie permet de cacher ce qui se passe au Soudan. Donc ils le font là maintenant, parce qu'ils savent qu'on n'en parle pas trop, justement. Donc c'est intéressant d'en parler ce soir.
Oui, parce voilà. Que sur les premiers retours des médias qu'on avait, c'était liesse dans les rues, les dictateurs et déchus, c'est vrai. Je pense qu'il y a un moment...
Bah, sur le coup, ça faisait plaisir.
Ouais, je pense. Et puis, il y a l'après-coup.
Après, il y a l'allocution, voilà. Où on dit, finalement, pendant 2 ans, nous, on va prendre le pouvoir.
Voilà. Et ça, je pense que ça calme. Je dirais, un seul oiseau est en cage et la liberté est en deuil. Voilà, nous allons continuer avec du Prévert. Et je vais passer à donner suite plutôt à ce que je racontais la semaine dernière sur Jamal Khashoggi, plutôt sur sa famille et sur les compensations que donnerait donc l'Arabie Saoudite à sa famille, à ses enfants. Et c'était donc rapporté par le Washington Post, pour lequel, hein, le journal pour lequel Jamal Khashoggi travaillait. Et la famille a réagi à ce que le Washington Post avait écrit le 1er avril dernier, en expliquant que pour l'instant, eux, ils n'avaient rien touché. Ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite n'a pas proposé des choses. Mais ça veut dire qu'eux ne veulent pas de l'argent, ou on ne s'est pas venu jusqu'à eux. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, ils n'ont pas trop envie de toucher cet argent. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'image que je veux bien avoir de cette famille, qui, je vous le rappelle, hein, vit pour la plupart des enfants aux États-Unis. Il y a un fils qui est toujours en Arabie Saoudite. Ce que veut la famille, c'est la justice et la vérité, de savoir exactement ce qui est arrivé à leur père et comment il a été assassiné. Et est-ce que le fameux prince est responsable ou pas ? Ça, je pense qu'on n'est pas prêt de le savoir, puisque je vous le rappelle, hein, il y a une dizaine de personnes qui étaient des extrémistes, d'après les autorités saoudiennes, et qui sont responsables, excusez-moi, de ces attaques.
Et qu'on a condamné à mort très vite pour qu'il n'ait pas le temps de parler.
Tu voulais nous parler de Hong Kong.
Oui, je voulais revenir un petit peu parce que j'aime bien des fois revenir un peu en arrière dans l'actualité, mais surtout ça a des impacts aujourd'hui. Alors pour ceux qui s'en rappellent, en 2014 il y a eu un mouvement dit des parapluies à Hong Kong, hein, pour ceux qui se souviennent de ça. Alors pourquoi des parapluies ? Parce qu'en fait les manifestants se protégeaient des gaz lacrymaux en ouvrant des grands parapluies pour éviter que ça leur tombe sur la tête. Voilà. L'idée était à l'époque de demander plus de droits, plus de démocratie et la libération des prisonniers politiques. Tiens, on y revient un petit peu. Voilà. Alors on se souvient que la fin du mouvement, hein, qui avait vu une répression extrêmement violente se mettre en place, et surtout des arrestations de masse étaient pratiquées. On se souvient aussi des leaders du mouvement qui disparaissaient en pleine nuit et réapparaissaient 15 jours après, avec le visage légèrement déformé par de
tuméfié,
voilà, qui bizarrement n'arrivaient quasiment plus à parler parce qu'ils étaient tellement, ils avaient été tellement torturés que voilà. On se rappelle aussi étonnamment qu'il y avait eu une pression quand même internationale assez forte sur le gouvernement chinois à l'époque parce que ça se voyait un peu. Je rappelle qu'Hong Kong, entre guillemets, l'avantage d'avoir été rétrocédé en 97, donc de garder quelques médias indépendants qui arrivent encore à faire sortir des images, donc c'était difficile pour la Chine de complètement faire un blackout là-dessus. Donc il y avait une pression qui demandait qu'il y ait des procès équitables, hein, qui soient menés par le gouvernement autonome de la péninsule. Je vous rappelle que Hong Kong a officiellement un gouvernement autonome par rapport à Pékin, sauf que dans les faits, en fait, on se rend vite compte que le gouvernement autonome, il est un peu nommé par Pékin, donc en fait, autonome un tout petit peu. Donc en fait, la Chine avait accepté, mais elle a dit pas tout de suite parce qu'on n'a pas les lois adéquates à Hong Kong pour juger ces gens. Donc elle a accepté, elle a d'abord fait passer deux lois par ce fameux gouvernement autonome qui semble être un peu aux ordres quand même. Une loi qui reconnaît l'incitation à inciter à commettre des troubles, c'est vraiment une loi qui existe, l'incitation à inciter, hein, vous réfléchirez à ça. Et une deuxième loi qui condamne la conspiration en vue de commettre un trouble à l'ordre public. Voilà. Et une fois que ces deux lois ont été promulguées, c'est-à-dire exactement les mêmes que celles qui existent sur l'ensemble du territoire chinois, eh ben en fait, là, ils ont dit « Ok, maintenant on peut faire le jugement ». Et c'est pour ça que ces personnes qui ont été arrêtées ont quand même attendu leur jugement, pour la plupart en prison, depuis 2014. Hein. On est en 2019, tout va bien, ils ont déjà fait 50 tôles. Donc les leaders du mouvement ont été du coup condamnés sur le second chef d'accusation. Parce que le juge, il a dit quand même le premier, l'incitation à inciter, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, donc je vais condamner sur le deuxième chef d'inculpation. Puis ça donne l'impression qu'il est indépendant, le juge, vous voyez, c'est un peu l'idée. Sauf qu'en fait, pas du tout, parce qu'en réalité, le deuxième chef d'inculpation, il est plus grave que le premier, et du coup, il condamne à plus lourd que le premier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait... le juge a condamné, il a dit pourquoi ? Parce qu'il y avait un caractère déraisonnable des nuisances et qu'elles étaient telles que le droit important et protégé de manifester doit céder le pas dans ces cas-là. Voilà. Ces actes ne sont pas garantis par la loi. Ça doit vous rappeler un discours qu'on entend en ce moment, enfin moi je dis ça comme ça.
Un petit peu. À peine.
Vaguement, vous savez. Éric Ciotti, par exemple. Alors, céder à quoi ? Parce que céder le pas, ok, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien en fait, le juge, il a justifié. C'est que l'activité économique de Hong Kong, et en particulier la bourse, ne doit plus être entravée par les manifestations et les demandes non en adéquation avec l'esprit de la nation. C'est pas mal pour un pays communiste, hein, quand même, de protéger la bourse. Quand on y réfléchit, c'est quand même hyper intéressant de se dire... En fait, le gars dit il faut protéger la bourse, et c'est pour ça que vous êtes condamné. On est en Chine, hein, ben officiellement, oui. Pays communiste. Hein, donc voilà.
C'est que du capitalisme d'État.
Oui, hein, on est d'accord. Donc, pour les dirigeants, en fait, de ce fameux Occupy, comme on disait à l'époque, hein, ou plutôt du mouvement des parapluies, je préfère, c'est le nom qu'eux se donnaient. Donc, c'est un maintien en prison pour la plupart, hein, aujourd'hui. Et surtout, ce qui est pas très drôle, c'est qu'en fait, à Hong Kong, on est sous le droit dit de type anglo-saxon encore. Donc, en fait, ils attendent que le juge d'application des peines leur dise combien de temps ils vont rester en prison. Et figurez-vous que le procureur de Hong Kong, qui est donc quand même nommé par Pékin, vient d'annoncer que le juge serait saisi entre maintenant et dans 3-4 ans. Voilà. Donc, on peut estimer qu'ils feront au moins 10 ans de prison minimum, sans accusation réelle. Voilà.
Alors écoute, je trouve que c'est bien parce que les conquérants, terre, horizon, terrorison, je trouve que ça va bien avec cette Chine, tu vois.
Mais ouais, c'est ça.
Et surtout avec ce que vit Hong Kong, finalement, qui a quand même connu la colonisation avant, avec les Britanniques. Et puis maintenant, il y a la Chine, et voilà. Et ils sont bien terrorisés, je crois. On va tenter de passer là tout de suite au rapport d'Amnesty International sur la peine de mort. Alors en 2018, Amnesty International a enregistré 690 exécutions. Il paraît que c'est bien, parce qu'il y en a moins qu'avant.
Vu comme ça, oui, mais...
Mais.
Mais. Qui ne donne pas ces chiffres ?
Alors déjà, oui, on a toujours un petit problème avec la Chine. Et puis tout ça vient quand même d'un pays qui a baissé le nombre de ses exécutions parce qu'il y a une modification de la loi, c'est l'Iran. Et quand on sait comment l'Iran exécutait des gens, assassinait, évidemment, ça fait une belle baisse des chiffres, hein, puisque là, en Iran, il y a le nombre d'exécutions qui a baissé de 50%, tout ça pour une modification de loi sur les stupéfiants. Donc ça veut dire que, voilà, l'Iran est à la pointe. Hein. Ouais, je ne le dirai pas deux fois, profitez-en. Alors, on sait que quand même, bon, l'Iran, c'est 253 exécutions, derrière, on a toujours l'Arabie Saoudite, il y a le Vietnam, l'Irak, et donc c'est des pays qui sont les quatre pays vraiment très importants dans les chiffres. Encore une fois, on n'a pas la Chine, donc il faut bien penser à ça. Et puis, il y a un recul dans un certain nombre de pays, comme les États-Unis, le Japon, Singapour, le Soudan du Sud, le Bélarus, voilà. Et puis, il y a des réapparitions, comme la Thaïlande, où il n'y avait pas eu d'exécution depuis 2009, et c'est reparti. Donc, évidemment, tout ça est dû aussi à des changements politiques, qui, d'un seul coup, disent « Oh, bah allez, si, il y a des vilains !» On va les passer voilà, à la tronçonneuse. Alors, j'essaye d'en rire, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc, l'Arabie Saoudite, je vous rappelle, c'est la décapitation. La pendaison, c'est Afghanistan, Japon, Singapour. En Chine, c'est l'injection létale, comme aux États-Unis qui pratiquent aussi l'électrocution, rappelons-le. La Thaïlande, c'est l'injection létale. Et puis, sinon, les endroits, c'est l'arme à feu. Alors, Amnesty International nous souhaite deux chouettes pays par arme à feu, c'est la Corée du Nord et le Yémen. Donc, oui, là, on est quand même dans des pays où la démocratie est assez peu présente, hein, quand même. Bon, le truc, c'est que moi, il y a un chiffre qui me... Alors, je trouve ce chiffre, 690 exécutions connues, rapportées et notifiées, assez important, quand même.
On peut imaginer que dans tous les pays, il y en a qui sont peut-être faites sans être rapportées.
Bah, disons que l'Irak, toi, je me pose un peu des questions.
Le Yémen, c'est pareil.
Voilà. Bon, quant à la Corée du Nord, bon, voilà. Ils disparaissent, en fait, c'est pas pareil. Donc, il n'y a pas de chiffre.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon, rappelons qu'il y a un chiffre énorme, qui est de 19 336, c'est le nombre de personnes dans les couloirs de la mort. Ça, c'est énorme.
C'est énorme.
Ça, c'est énorme à travers le monde d'avoir pratiquement 20 000 personnes qui attendent d'être exécutées. Alors, il y a des pays où on leur a dit. La peine de mort, ça va plus trop se pratiquer, donc vous allez rester là. Mais ça reste quand même d'être dans le couloir de la mort. Et puis, vous avez aux États-Unis, je vous rappelle, un certain nombre de condamnés qui attendent. Alors certes, qui attendent parce qu'ils l'ont souhaité aussi, ces condamnés, en faisant appel, en faisant des demandes. Mais c'est comme une situation... vraiment, le couperet, il est sur ta gorge, quoi. Il attend de tomber. Hein. Donc moi, je trouve que c'est un chiffre qui est vraiment assez terrible. Alors, Amnesty International, elle a quand même envie d'être positif. Hein. Comme je vous le disais, il y a déjà une baisse. Ça n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Et puis, il y a des pays qui font un petit peu un certain nombre de pas. Il y a la Gambie, la Malaisie, qui ont déclaré un moratoire sur les exécutions. Le Burkina Faso a exclu la peine de mort. Donc, voilà, à chaque fois, on espère un petit peu que le nombre de pays qui vont arrêter de pratiquer les assassinats d'État vont augmenter un petit peu à chaque fois. Mais il reste qu'on a quand même des pays comme le Japon et les États-Unis d'Amérique qui sont des pays dits démocratiques et qui assassinent quand même autour de bras. Hein. Les États-Unis, on en parle souvent dans cette émission. On parle aussi du Japon qui fait sans cachette et qui prévient les familles après, en rendant parfois pas du tout le corps d'ailleurs. Ça, c'est quand même loin des droits humains, hein, il faut quand même le rappeler. Voilà, donc j'avais un peu envie de vous parler ça. Vous pouvez retrouver tout ça, évidemment, sur le site d'Amnesty International, qui met tous ces rapports, évidemment, à disposition. Vous pouvez télécharger tout ça, tout ça. Vas-y.
Et moi, je voulais juste caser un petit truc comme ça. C'est en France, en fait, quand tu es un sultan du Brunei, au hasard, que tu veux remettre la peine de mort en place, hein, notamment pour les femmes adultères et les homosexuels, bah, en fait, on te nomme Grand Croix de la Légion d'honneur. Voilà. Mais ça aussi, ça fait partie des exemples qui posent problème.
C'est fou ce que l'homme invente pour abîmer l'homme. Voilà. Je vais finir avec un truc plutôt bien. Allez.
Allez.
Il est où mon truc plutôt bien ? Il est là, ça se passe en Corée du Sud. C'est la Cour constitutionnelle qui a estimé que lancer des poursuites, attaquer les femmes et les médecins, les femmes qui se font avorter, les médecins qui pratiquent les interventions, était anticonstitutionnel. Donc ça veut dire qu'on va quand même vers une possibilité d'avortement élargie, parce que les femmes qui étaient victimes de viols, d'inceste, avaient le droit de se faire avorter. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant et ça ne l'est toujours pas. Il y avait quand même des demandes hein, pour enfin légaliser cet avortement. Donc là, on va dans le bon sens, c'est bien. Reste que c'est un pays très masculiniste, viriliste et conservateur, la Corée du Sud. Donc il reste encore la pression sociale sur laquelle les féministes vont devoir continuer à se battre. Et puis les médecins aussi, parce qu'eux aussi subissent une pression sociale pour ne pas exercer ces interventions. Voilà, mais c'est quand même une bonne chose. Voilà, là aussi que le droit des femmes puisse aussi un peu avancer. On sait que c'est un pays compliqué au niveau des discriminations. J'ai parlé d'il n'y a pas très longtemps hein, aussi des violences sur les femmes, les agressions sexuelles, enfin voilà, tout ce machisme très présent et qui est encore, il y a depuis pas très longtemps, très tabou. Et puis ben, qui maintenant, comme dans beaucoup de pays dans le monde, et avec les mouvements MeToo, est apparu. Et je pense que ça fait aussi partie voilà, d'un pays qui va certainement se transformer, je le l'espère. Bon, ils ont un président qui peut aller dans le bon sens. Voilà.
Et étonnamment, ils ont aussi des artistes qui s'engagent de la K-pop, ce qui est très étonnant.
Ouais, non,
et
mais.
C'est, voilà. Et ça crée un mouvement un peu. Voilà, c'est bien.
Mais ils ont, il faut dire qu'il y a des artistes dans la K-pop qui ont un tel pouvoir, un tel succès que.
Quand ils disent quelque chose, c'est hyper écouté, quoi.
C'est incroyable, quoi. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve qui est bien aussi, c'est que c'est des artistes qui sont exportés à l'international et qui donc peuvent faire porter ces propos-là d'ouverture ailleurs et dans des pays un peu moins drôles, comme la Chine, par exemple, où sur des valeurs et sur des droits humains peuvent arriver à porter des choses. Voilà, donc c'est plutôt pas si mal.
je veux bien me faire un petit truc rigolo sur le Brexit.
Eh bah oui, parce que c'est le sujet qui nous restait sur l'international.
Ouais, très vite fait, parce que ça m'a fait rire. Bon, je ne reviens pas sur le fait que vous avez appris aujourd'hui que le Royaume-Uni va devoir faire des élections quand même pour élire des députés européens.
Alors ça, moi, ça me fait marrer, pardon de vous le dire, mais je l'attendais.
C'est énorme, hein. Donc voilà.
Là, il va falloir quand même des gens se dépêchent de dire « Salut, moi, je vais y aller, moi !»
C'est ça. Alors, pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas être membre de l'Europe sans avoir de député européen. Donc, ben oui. Ils vont devoir en élire. Ils vont aussi devoir verser 6 milliards d'euros, comme tous les pays, parce que c'est comme
Pardon,
ça. Quand vous êtes dans l'Union européenne, vous mettez dans la gamelle commune, hein, c'est le principe. Et il voilà. n'y a rien de choquant là-dedans, c'est le principe d'une union. Voilà. Et donc, ils ont obtenu un délai jusqu'au 31 octobre. Alors, le 31 octobre, ce n'est pas pour Halloween, hein, c'est parce qu'en fait, la Commission européenne siégera à partir du 1er novembre. Et vous savez qu'à chaque fois, il faut attendre quelle est la couleur du Parlement européen pour nommer la Commission européenne. Donc voilà, en gros. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est pas ça, parce que bon, ça c'est déjà très drôle, franchement, en soi. C'est surtout que Theresa May a été obligée d'admettre une chose toute bête, c'est que si au 31 octobre ils sont pas partis, ils sont obligés de rester 50 plus. Bah oui, parce que comme ils ont réélu des eurodéputés et que la Commission européenne sera en place, ils ne peuvent pas, de fait, quitter l'Union européenne une fois qu'ils auront voté pour la Commission européenne. Donc du coup, elle a dû le dire à demi-mot cette nuit, hein, dans un communiqué de presse. Et c'est là que ça devient très drôle, parce que du coup, il y a tous les partis europhobes, comme on dit, eurosceptiques, euro tout ça, qui du coup sont obligés de changer de discours et de fusil d'épaule pour être un petit peu dans le truc guerrier, parce qu'ils aiment bien ça, voilà. C'est que c'est un peu compliqué maintenant de dire on n'a qu'à faire un Frexit et tout va bien, parce que quand on voit à quoi ressemble un Brexit, on se dit en fait c'est plus compliqué que ça, vous voyez. Puis c'est parti, ils semblent découvrir que on n'est pas tout seul dans le monde, c'est-à-dire que il y a la Chine et il y a les États-Unis aussi, et puis que eux ça les arrange bien quand on s'engueule entre nous, vous voyez, parce qu'on est quand même dans un monde capitaliste qui est pas très sympatoche, et donc quand même à un moment donné, ils se disent, voilà. Alors maintenant, ils tous officiellement, hein, dans la grande plateforme des extrêmes droites, là, ils ont dit, nous sommes officiellement maintenant des réformistes de l'Union européenne. Et j'ai trouvé ça, juste le fait que des partis d'extrême droite finissent par se dire réformistes, je trouve ça, c'est surréaliste. Et je me demande même si Prévert, ça n'aurait pas fait rire, d'ailleurs,
y a moyen,
ce degré de surréalisme. Parce que, franchement, des partis d'extrême droite qui se déclarent réformistes, alors là, on aura tout vu.
Pardon.
Vas-y, je t'en prie.
Non, mais parce que, enfin, personnellement, moi, je me demande presque je sais pas quel niveau. En fait, c'est un peu une volonté de la classe politique anglaise de continuer en fait dans l'Europe, parce que il y a vraiment quelque chose qui est très impressionnant. C'est tous ceux qui étaient contre. Il y en a quand même un paquet qui en fait sont en train de se dire est-ce qu'on y va vraiment. Enfin, c'est vraiment étrange, quoi.
C'est que c'est pas si simple de quitter comme ça un grand espace économique. Et puis c'est pas si simple aussi quand aujourd'hui plus de 60% du Royaume-Uni des gens dans les sondages veulent rester. Qu'ils ont aussi à se faire réélire, ces gens là-bas. Vous voyez, donc c'est voilà. Mais je trouve, moi, c'est juste l'effet sur les partis d'extrême droite qui, je dis, oh là, quand même, merde.
Alors, oui, je propose que, puisqu'on a un petit peu du temps, qu'on parte aussi en Hongrie, puisque j'ai appris qu'il y a des gouvernements qui ont des superbes idées. Ils ont bien raison, parce que moi, ils prennent le truc à bras-le-corps. Ouais. Donc, c'est M. Orban, hein, en Hongrie, qui a donc incité, piloté... Quel est le vocabulaire adapté
à créer en place.
Une agence de presse internationale, l'idée étant de concurrencer l'AFP et Reuters, qui apparemment sont trop gauchistes. Donc c'est pour l'instant un peu réservé des abonnés, c'est en anglais et en hongrois. Il paraît que ça va s'ouvrir, on pourra tous bientôt avoir des informations. Ça s'appelle V4 Agency ou V4 Agence, si tu veux, un truc comme ça. En hongrois, je ne sais pas comment ça fait. C'est pour l'instant situé en Grande-Bretagne, hein, c'est-à-dire que les bureaux ne sont pas installés en Hongrie, c'est international. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors l'idée, évidemment, c'est grâce à cette agence de presse pouvoir relayer les vraies informations qui vont bien, c'est-à-dire...
C'est comme Russia Today, quoi. C'est le truc que tu crées pour les vraies infos.
Les vraies infos. Ah ben, je vous l'ai dit, c'est des gauchistes.
C'est énorme, quoi.
Donc l'idée, évidemment, c'est de nous rappeler qu'il y a trop d'immigrés. Qu'il y a le machin là du grand remplacement, non c'est pas ça, un truc comme ça. Que les femmes elles doivent rester à la maison, j'imagine. J'imagine qu'on va aller aussi vers des trucs un peu conservateurs. Ça fait dire à certains journaux français dans le Monde que en fait la Hongrie a créé un site payant de fake news.
Mais c'est ça.
Ouais, c'est classe. Avec des trolls dedans, c'est vachement bien, hein. Mais des trolls payés pour de vrai, pas des gens qui, tu vois, enfin voilà. Alors il faut savoir que apparemment donc. En décembre, le propriétaire de cette agence était. Alors, est-ce que je vais oser vous le dire? Enfin, c'était le gars qui était ambassadeur de Hongrie au Royaume-Uni. Donc c'est pas n'importe qui. Il y a un homme d'affaires dedans, là je peux dire son nom, il s'appelle Arpad Abony. Donc c'est pas non plus des gens de la presse, c'est ça qu'il faut entendre derrière, c'est des proches d'Orban qui ont mis de l'argent, des hommes d'affaires, et globalement des gens qui pensent comme lui.
Et il faut pas oublier que le milliardaire que tu as cité, parce qu'il est milliardaire,
ouais,
en fait est celui qui œuvre depuis des années pour détruire le code du travail en Hongrie. Voilà.
Alors l'autre s'appelle, je vais vous le dire, parce que peut-être que certains ça vous parle, il s'appelle Christophe Szlazé Bobrovnicki. J'ai un doute sur la fin. Voilà, vous pouvez chercher, hein, Christophe, voilà, ça se trouve. Donc, c'est aussi des idées conspirationnistes qui vont arriver sur cette agence de presse. Donc, moi, je pense qu'on va aller vers le mieux.
Ça va être bien.
Et je pense que peut-être que...
Est-ce qu'on va s'abonner ?
Alors, je sais pas. Mais je me suis demandé si Monsieur Assange, lui, se serait abonné.
Oh, je pense, parce que...
Je te fais une ouverture pour glisser
oui.
un sujet.
Alors là, oui, moi je pense que M. Assange se serait abonné, mais même il y aurait écrit, ce brave homme, parce que je vous rappelle quand même que Julian Assange, que tout le monde fait...
A écrit pour
Un certain Vladimir Poutine, d'une époque, et puis...
Assange, il a écrit pour RT.
Ah oui, pour RT News, ouais, voilà.
Oui, il faut se souvenir de ça.
Et oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit Vladimir Poutine, parce que je vais directement au patron. Voilà, alors oui, parce que moi, il y a un truc qui m'agace en ce moment, c'est cette espèce de super-héros qu'on nous présente, que serait Julian Assange.
Il faut peut-être rappeler qu'il a été arrêté aujourd'hui.
Oui, il a été arrêté aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça que nous en parlons.
Oui. Et donc, en fait, voilà, alors, on nous le présente comme le super-héros des super-héros. Alors, je rappellerai juste quand même le parcours de ce brave homme, hein, c'est qu'il a bénéficié quand même de beaucoup de protection, surtout quand il a été accusé de viol, étonnamment. Il a été très, très protégé, et puis il a même pu se barrer hein, comme il voulait. Je rappellerai juste qu'à une époque, on voulait l'interroger sur ces trucs-là et que c'est pour ça qu'il est allé se planquer au départ et pas parce qu'il était poursuivi par les services secrets. Hein, voilà. Comme lui, il l'aurait écrit, parce qu'il aime bien réécrire les histoires. Je rappellerai quand même qu'à cause de Julian Assange, il y a une nana qui s'appelle Chelsea Manning qui a fait de la tôle parce que ce monsieur ne s'est pas envoyé des emails et qu'il avait juste mis son nom en copie par erreur hein, à la CIA. C'est drôlement intéressant. Voilà. Donc, non, ce n'est pas un super-héros, vraiment pas. Et ce n'est pas un mec sympa. Je vous rappellerai juste comme ça que ce brave homme a participé très ouvertement et très... comment dirais-je, en s'en vantant, à la grande mascarade que Poutine avait mis en place contre Hillary Clinton. Je n'aime pas spécialement Hillary Clinton, mais par contre, quand on fait on publie des emails soi-disant ultra top secret, et qu'on découvre après que bon, non, en fait, on a juste publié la boîte mail d'une femme qu'on a hackée, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, et qu'en fait, il n'y avait rien de spécial, mais qu'on a fait monter le buzz.
Alors, il y avait deux, trois choses intéressantes, qui étaient quand même à relever, mais simplement, lui, il a tout publié.
Il a tout publié, y compris la vie privée.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Monsieur Macron.
Ouais.
Sauf que ce qu'il a publié sur Monsieur Macron n'avait absolument aucun intérêt.
Oui.
Et en plus, c'était des choses assez personnelles. Et là, si c'est pas juste.
C'est juste minable, mais je vais pas parler de lui.
C'est du caniveau, quoi.
C'est ça, c'est pas du débat politique, non. Du combat idéologique.
Et pourtant, on n'aime pas Monsieur Macron non plus.
Non, du tout.
Voilà.
Mais ton ennemi, si tu peux l'avoir, c'est au moins.
Ne te mets pas à son niveau.
Oui, c'est ça, c'est par de l'argumentaire.
Et donc, je voulais juste te dire, ne confondez pas Snowden avec Assange, c'est pas les mêmes parcours. Snowden est un vrai lanceur d'alerte, dans le sens où il a pris des risques et qu'il a vraiment dénoncé. Chelsea Manning était une vraie lanceuse d'alerte. Julian Assange est juste quelqu'un qui surfe en utilisant ces personnes-là.
Et il faut rappeler que si, personne n'est rentré dans l'ambassade de force. Hein, il n'y a pas eu une violation diplomatique.
Alors, je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais j'ai tout le détail.
C'est qu'en fait, il s'est fait lâcher.
Hein, ben oui,
voilà.
C'est
important de le dire qu'il n'y a pas eu une attaque une ambassade. Quoi.
Il était dans l'ambassade d'Équateur et en fait, le président équatorien a décidé que ça suffisait parce qu'il il brisait lui-même en fait, les accords qu'il avait passés avec l'Équateur, parce qu'en fait il ne devait pas s'occuper de certaines choses dont il s'est occupé. Et donc du coup, le président lui a retiré ce qu'il a le droit de faire en Équateur, il lui a retiré sa nationalité équatorienne et sa protection en tant que réfugié politique. Et donc du coup, il a demandé à son ambassadeur d'ouvrir les portes de l'ambassade pour qu'il puisse être arrêté par la police anglaise. Et je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, en fait, on veut l'interroger sur le fait qu'à l'époque, il était en liberté conditionnelle et qu'il est allé se planquer dans une ambassade en violation totale de la liberté conditionnelle. Et donc, on veut juste lui demander pourquoi, en fait.
Bon, après, maintenant, évidemment, on rappellera que les Britanniques n'ont pas le droit de l'envoyer normalement aux États-Unis, puisqu'il risque la peine de mort.
C'est ce que je voulais préciser.
Donc, lui souhaite évidemment pas, puisque pour l'instant il y a des petites charges, hein, où il pourrait prendre que quelques années de prison, oui. Voilà, mais on se doute bien que les charges vont gonfler jusqu'à l'envoyer à l'échafaud. Là, là-dessus, faut pas en douter deux c'est secondes clair. De ce que veut faire les procureurs.
Surtout Trump, ça lui ferait un beau truc.
Ouais,
quoi.
Du côté, ah bah, ça serait une belle proie, ouais. Bah ouais. Donc bon, voilà, les insoumis ont tout de suite rebondi pour dire qu'il fallait absolument que la France lui donne l'asile. Si moi, juste si on va lui peut-être lui éviter l'exécution et donc lui l'envoyer aux États-Unis d'Amérique, mais voilà.
Oui, oui, non, mais moi je l'aime.
Mais
pas,
les insoumis mais tout de suite se sont mis à dire, ouais. Oh là là, c'est un homme génial, il faut absolument
voilà.
le faire.
Moi,
je l'ai,
évidemment, on va pas lui sûr. Souhaiter ça. Et évidemment, s'il faut le protéger, il faut le protéger. Mais par contre, arrêtez d'en faire un super héros, quoi. Voilà.
On est en manque de super héros, je crois.
Bah oui.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de beau? Martyr, c'est pourrir un peu, par exemple. C'est pas mal aussi, c'est celui-là. Mal. Hein. On va attaquer une partie plus profiteur, hein, puisque nous allons reparler un peu de Bolloré.
C'est ton pote, hein, tu l'aimes bien, lui, je crois.
Je crois qu'on est plein, hein, les... dans cette émission, sur les Canu Info, quand même, je trouve que...
Bolloré, il revient, quand même. C'est normal, hein, quand même, il cherche. Hein.
Ah, hein, alors, mardi, ça s'est passé, c'est la cour d'appel de Versailles qui a redébouté Vincent Bolloré. Puisque Monsieur Bolloré n'avait pas aimé le reportage Vincent Bolloré, virgule, un ami qui vous veut du bien, point d'interrogation. Ça avait été diffusé en 2016 dans Complément d'enquête. Et c'était le journaliste Tristan Valex qui donc était mis en accusation par Vincent Bolloré. Et donc, il avait réclamé tout plein de trucs à France Télévisions. Il y avait eu toutes des péripéties. Oh là là. Puis à chaque fois, Vincent Bolloré, il en réclamait, parce qu'il n'était pas content. Alors, il faut rappeler, hein, très très brièvement, c'est des 9 séquences précisément qui sont consacrées aux activités de la Soca Palme. Hein, c'est une société qui produit l'huile de palme au Cameroun. Hein, et M. Bolloré actionnaire, tout ça, tout ça. Donc, bah on est content parce qu'il s'est encore fait envoyer paître, hein, monsieur Bolloré. C'est quand même un reportage qui a obtenu en 2017 le prix Albert Londres, parce qu'on sentait qu'il y avait du soutien à m'amener. Et puis que c'était un reportage, une enquête quand même assez longue, hein, sur.
Puis il était très bien d'ailleurs. Enfin,
sur à la fois tout le processus de le développement de cette industrie et de cet industriel. Et puis leur présence en Afrique, hein, qui est extrêmement importante. Donc ça c'est une bonne chose, on est bien content puisque ça fait 4 fois que les tribunaux français là, le déboutent en un an, donc on est content. Par contre du côté des avocats de M. Bolloré, on continue à dire que ah bah oui, mais du coup maintenant on n'a pas été resanctionné avec des frais pour procédure abusive qu'ils avaient eu une fois, je pense, enfin vous savez.
C'est un peu mieux.
Donc en fait, bah quoi, non, on a le droit d'aller en justice. Hein. Bon, c'est un peu quand même. En fait, le journaliste aimerait bien que ça s'arrête parce qu'il trouve que c'est quand même chronophage, je le cite, et que c'est de l'acharnement.
Et lui peut plus bosser en fait pendant ce temps.
Puis, bah, c'est un truc de fou quand même de vivre ça. Quand t'as une multinationale avec un tel homme qui te tombe dessus, il faut quand même se dire que c'est assez horrible. D'autres hein, subissent ça d'ailleurs. Donc on pourrait juste rappeler qu'ils ont tout plein de malheurs de toute façon dans le groupe Bolloré, puisqu'ils auront perdu la concession du terminal à conteneurs du port de Douala au Cameroun, hein, et que c'est un gros port. Donc du coup, ils l'ont un peu mauvaise parce qu'en fait, quand la liste des présélectionnés. C'est un peu comme aux Oscars, tout ça. On te dit qu'il y a des gens qui sont dans des listes, hein, qui pourraient gagner après la palme. Eh bien, ils ne font pas partie de la liste.
Ils ne sont même pas dans les nommés, quoi.
Non, c'est ça, là. Donc, ils ne risquent pas de gagner. Bon, en plus, ils ont d'autres procès hein, en Afrique, enfin ailleurs. Ce qu'il faut noter, c'est que quand même, quand ils ne font pas du pognon en Afrique, ils le font en France, puisque le 9 avril dernier, la RATP a attribué à 3 opérateurs industriels français, pour le coup, Alstom, Bolloré, Elias Bus, enfin c'est les multinationales, hein, mais bon, on peut dire qu'ils sont français, donc a attribué une commande de bus électriques, puisque l'idée de la RATP c'est de transformer son parc avec des énergies dites propres, électriques mais nucléaires. On va pas en débattre ce soir, Laurent n'étant pas là. On en profite pour le saluer. Voilà, bon, donc là c'est un partage hein, un petit peu. Et puis surtout, on pourrait expliquer que Vincent Bolloré a déjà annoncé qu'en 2022, qui sera l'âge de ses 70 ans et les 200 ans de l'industrie, va quitter les commandes du bateau. Alors il nomme ses enfants.
Non, parce qu'il ne faudrait pas déconner.
Alors, si j'ai tout saisi, il y a Yannick, 39 ans, qui est à la présidence du conseil de surveillance, et il est à, sinon il est PDG d'Avas, lui. Il y a Marie, 30 ans, qui est à Blue Solution. Il y a Sébastien, alors lui, c'est le plus jeune, hein, je crois. Lui, il est chez Gameloft. Vous savez, maintenant, c'est Vivendi, ouais. Vivendi. Tout ça, Bolloré.
Mais en fait, c'est que des sociétés qui appartiennent au groupe Bolloré.
Et hein, oui, c'est pour ça qu'il les place. Donc, je fais le petit lien avec mes doigts, hein. Mais il faut vous le mettre dans le cerveau, ouais. Que tout ça, c'est lié. Et donc, là, c'est Cyril, 33 ans. Non, je ne sais pas quel âge il a, Sébastien, mais donc, je ne l'ai pas noté. Je m'étais fait pourtant.
Bah, il doit être entre les deux.
Ouais, et alors, donc là, c'est Cyril qui l'avait toujours dit que ça serait son héritier. Ouais. C'est pas Yannick. C'est Cyril qui a gagné la palme. Et lui, il a donc pris le poste de PDG. Dire il remplace Vincent, le papa, qui quand même était là depuis 83 hein, à la commande, hein, donc Vincent Bolloré. Et mais alors lui, Vincent Bolloré, il a pris le truc de la l'Odette, c'est la société de famille qui gère les machins du groupe Bolloré.
Il s'est mis à la tête de la holding en fait.
C'est ça.
C'est à dire qu'il était au-dessus de ses enfants, c'est pratique. Ah bah, il part pas comme ça.
Hein. Voilà. Donc c'était ça, c'était le 14 mars hein, que Cyril Bolloré a été nommé à l'unanimité. Ça, ça m'a fait marrer aussi.
En même temps, quand t'as un conseil de surveillance qui a que tes enfants, t'es tranquille. Hein. Je veux dire, c'est unanime.
Voilà. Bon, enfin bon, quand même, on était contents pour le reste. Sinon, il y a un truc qui dit... alors attendez, je vais vous le retrouver parce que c'est dans ma petite liste. Oh là là, je l'ai perdu. Ah, il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes.
C'est bien ça.
Voilà. Mais parce que c'est après, on va parler de Frédéric Mitterrand. Je suis pas sûr que ce soit un intellectuel, mais je voulais placer celle-là. Mais avant ça, on va parler de Monsanto. Ouais.
Oui, parce que alors, bah tiens, on parlait de bonnes nouvelles. Alors, Paul François, vous avez dû en entendre déjà parler hein, de ce Paul François. C'est un paysan, je vous rappelle, qui a été exposé en 2004 à un désherbant qui n'est plus vendu aujourd'hui de la marque Monsanto. Et il a réussi à prouver, ce Paul François, que les maladies dont il est touché aujourd'hui, puisqu'il en a trois, sont issus de ce désherbant. Alors voilà, il l'a démontré, il a fait ça très très bien avec un médecin. Tout ça. Il avait obtenu gain de cause en 2012, mais Monsanto avait fait appel. Bon, il a réobtenu gain de cause en 2015, et Monsanto a refait appel, parce que c'est quand même principe, donc ils sont allés en cassation. Et la Cour de cassation vient gentiment de donner raison à Paul François en disant, en fait, vous avez raison. Sur toute la ligne. Alors, le juge dit, Monsanto a été reconnu responsable du dommage causé à Paul François. C'est la Cour qui l'a annoncé, hein, précisant avoir pris cet arrêté sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux. Alors pourquoi ça peut paraître bizarre comme ça quand on n'est pas dans le juridique? C'est qu'en fait, théoriquement, quand vous vendez un produit, vous devez indiquer tous les risques de ce produit. Si ce n'est pas le cas, c'est défectueux. Vous voyez, c'est ça en fait que ça veut dire. Et en gros, ben... la Cour reconnaît que Paul François a raison depuis le début, qu'on ne l'a pas prévenu sur les risques. Et la Cour va même plus loin, elle dit, elle reproche à Monsanto de ne pas avoir sur l'étiquetage et ou l'emballage du produit apposé une mention sur la dangerosité spécifique des travaux dans les cuves et les réservoirs avec ce produit. Vous voyez, parce que les gens descendaient, ils remplissaient et hop, ils redescendaient après. C'était pas terrible. Et bah, comme l'avocat dit oui, mais enfin bon, on peut pas tout penser. Alors le juge a répondu, les connaissances techniques de ce dernier, hein, donc de Monsieur Paul François, allaient supposer avérées, ne pouvaient pallier le manque d'informations sur le produit et ses effets nocifs, un exploitant agricole n'étant pas un chimiste. Voilà, parce que l'avocat disait, bah, il avait qu'à comprendre que c'est dangereux, c'est de la chimie. Voilà. Alors bon, la Cour, elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur les dommages et intérêts, donc il est obligé de retourner au tribunal de grande instance pour avoir ses sous, c'est toujours le principe, donc il va repartir en procédure contre Monsanto. Mais quand même, la Cour, elle avait le droit de lui octroyer des frais d'avocat. Hein. Alors du coup, elle a octroyé 50 000 euros à Pascal François en disant, bah, comme ça, au moins vos frais d'avocat seront couverts pour les procédures qui ont eu lieu et les procédures à venir. C'est pas mal hein, quand même. Du coup, l'avocat de Monsanto, maître, je vais le citer parce que je pense qu'il y a des avocats, il faut donner leur nom des fois. Donc,
moi j'aime beaucoup, tu sais, c'est un truc que je fais souvent. Moi. Et souvent même d'ailleurs, je l'épelle.
Voilà, alors
si tu veux, je t'aide.
Donc maître Jean-Daniel Bretzner, pardon, alors B-R-E-T-Z-N-E. Voilà, ah, donc ouais. Si vous allez chez lui, vous savez que c'est l'avocat de Monsanto. Voilà, il a regretté cet arrêté, affirmant qu'il engage la responsabilité du producteur. Or, Monsanto France n'a jamais rien produit. Ben non, Monsanto France n'est que distributeur. Évidemment qu'ils n'ont jamais rien produit. Le producteur, c'est la société Monsanto Europe. Vous voyez, c'est quand même une société tierce. Pourquoi c'est nous qui sommes dans cette procédure? Et tu ne serais pas en train juste de nous prendre pour des lapins de deux semaines. Mais si, en fait, c'est le principe des multinationales et de faire des filiales et des holdings en permanence pour dire « c'est pas moi, c'est celui d'à côté ». Sauf que bah, le tribunal ne reconnaît pas cela en disant « bah non, c'est vous qui avez distribué le produit, c'est donc vous qui deviez imposer l'étiquette, point barre ». Et donc quand même, il précise, cet avocat, « Monsanto se réserve le droit de se pourvoir en cassation, c'est probablement l'étape qui viendra ». En gros, et je le dis franchement, je souhaite à Paul François une longue vie, parce que malheureusement, ces déboires judiciaires ne sont pas terminés.
Mais c'est exactement ce qui se passe, hein, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que du côté de Bolloré, il va y avoir certainement une cassation. Et alors d'ailleurs, je peux te donner aussi le nom de l'avocat, il s'appelle Olivier Baratelli, celui de... C'est pas le même, hein, donc tu vois, il y en a plein qui défendent les multinationales. Voilà, c'était juste pour ajouter ceci. Donc,
on a sauvé Frédéric Mitterrand de Pôle emploi.
Très... Ça s'appelle... Alors lui, il a une fonction, ça s'appelle parachuter.
Okay.
Non, mais... Je sais pas. Moi, je trouve que c'est... ça existe. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils sont parachutés. Alors, il faut savoir qu'il y a une holding Mitterrand. Vous étiez au quoi?
Non.
Eh bien, il y a une holding Mitterrand qui est gérée avec Olivier Mitterrand. Ah oui, mais c'est une famille, les Mitterrand, faut pas croire. Là,
fils d'eux,
hein,
donc.
Voilà. Alors, on a appris... que François Mitterrand allait être parachuté aux éditions Christian Bourgeois.
Frédéric Mitterrand.
François. Frédéric.
François est dans un état où on ne peut plus le mettre.
Et il aurait pu être parachuté quand même. Hein. Mais ça aurait été vraiment très physique.
Oui, oui.
Voilà. Frédéric Mitterrand, on va y aller. Alors, ce qui fait tout de suite râler beaucoup de gens, c'est qu'il est plutôt jeune et qu'il y a des gens qui pensent que la retraite, c'est bien aussi. Voilà. Bon. Ça c'est dit. Alors, surtout le vrai fond du problème, il n'est pas là. C'est que donc, il faut savoir qu'en janvier dernier, au capital de Christian Bourgeois est rentrée donc la famille Mitterrand avec l'arrivée d'Olivier Mitterrand qui a pris des parts. La holding s'est installée, tout ça. Il s'était censé y avoir des accords. C'est-à-dire que quand Christian Bourgeois est décédé, c'est sa veuve Dominique Bourgeois qui a pris la place, qui était présidente et directrice éditoriale des éditions. Alors, il faut savoir que les éditions, juste, moi ça me fait marrer parce qu'ils ont un catalogue qui va de Salman Rushdie à Tolkien, hein, quand même, hein. Donc c'est voilà, ils ont un beau catalogue. Donc elle avait repris la direction, la présidence, et quand cet accord est arrivé en janvier, il n'était pas question qu'elle gicle. Et ben elle gicle, puisque c'est Frédéric Mitterrand qui va prendre la direction éditoriale chez Christian Bourgeois, et là ça fait tiquer un peu des gens qui se demandent, alors le gars qu'est-ce qu'il y connaît en vrai? C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui le métier
de Frédéric Mitterrand.
Et donc, qu'est-ce qu'il pense que c'est que de diriger une maison d'édition?
Et surtout, pas n'importe laquelle, ils font quand même des livres dits d'art, en fait. Enfin, des très beaux livres. Hein.
Oui, oui.
Non, c'est mais pas du livre de poche. Hein,
ils ont un beau catalogue, vraiment. Vraiment. C'est une maison d'édition qui... qui avait 30 ans, qui était indépendante dans les années 90. Christian Bourgeois, il s'est un peu battu au début dans son petit coin pour faire vivre sa maison. Et puis, ils ont eu vraiment la chance d'avoir un catalogue avec une littérature étrangère, donc de pouvoir distribuer en langue française une littérature qui était chez eux, dans leur catalogue. Vous savez, c'est une vraie bataille, hein, l'édition. Hein, c'est pas juste, t'as le droit d'acheter comme ça, et puis te dire, oh, tiens, on va éditer celui-là parce qu'il a l'air sympa, que ça marche bien ailleurs. Non, t'as des droits, des autorisations, tout ça, c'est quand même un métier compliqué. Et puis, diriger une maison d'édition, c'est aussi avoir une ligne éditoriale. C'est donc s'y connaître un peu. Et frère, franchement, c'est pas parce que tu lis chez toi tous les soirs, là, toi qui m'écoutes, que nous sommes capables de le faire. Hein, voilà.
Il faut que ce soit cohérent. Il faut
Et puis, diriger une maison, c'est aussi être un manager, une manageuse. Mm-hmm. Hein, on a tous des chefs, et combien de fois on s'est rendu compte qu'en fait, ils savent pas faire. Il y a eu une réaction assez franche de la part de Jean-Yves, je tiens le signaler.
Moi, mais très souvent, quand même.
Très souvent, c'est-à-dire que. Voilà. Et donc, on se demande comment Frédéric Mitterrand va pouvoir diriger cette entreprise. En termes de direction éditoriale, en termes de management, quand même, c'est une vraie question. Et puis, c'est quand même un peu avoir giclé Dominique Bourgeois, quand même, d'un poste. Tout ça pour y être entré au capital. C'est-à-dire que c'est quand même, hein, quand on ouvre son capital, c'est toujours un danger. Voilà, et puis c'est l'histoire quand même de famille. On y place le frère. C'est aussi simple que ça. Alors qu'en plus, Frédéric Mitterrand, il recherchait du travail là, parce que bon, hein, il a fait un peu de la radio, un peu des machins, là, comme ça.
Il a été ministre aussi à un moment donné.
Ouais, mais ça, vraiment à un moment donné. Parce que franchement, si vous êtes capable de me dire exactement.
Quand
Enfin, quand encore, c'était pas
sous Sarko.
Mais c'est plutôt à quoi il a servi. Mais tu me diras que celui qui est aujourd'hui.
Rien non plus.
Voilà. Bah, ça fait un petit moment qu'en fait, les ministres de la culture ne servent à pas grand chose. À part pour des trucs Adopi, par exemple. Ça, il y en a une ou deux, on va s'en souvenir de ça. Mais bon, il s'était dit qu'il voulait refaire de la télé. Puis apparemment, bah, il a beau avoir fait des appels du pied, il ne trouve plus de travail. Parce que je vous rappelle que du côté France Télévisions, on veut rajeunir. Alors, déjà, on essaye de se débarrasser des vieux à l'antenne qui sont à la retraite depuis déjà au moins 25 ans. Et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, reprendre Frédéric Mitterrand, ça ne semblait pas être dans la ligne.
Donc, un dimanche après-midi, Frédéric Mitterrand Drucker. Tu te relèves pas, quoi.
Non, mais moi je suis pas pour faire de l'agisme et penser que quand non. On est vieux, on fait plus rien. Sauf que dans un rapport à l'économie collective, il y a un moment, c'est bien aussi de s'arrêter et d'imaginer sa vie autrement que par le travail.
Et puis en plus, il y a quand même, y a quand même quelque chose qui pour moi me dérange dans tout ça aussi. C'est que Frédéric Mitterrand, c'est pas quelqu'un qui a pas de revenus, de ressources. C'est pas quelqu'un qui.
Mais parce qu'il y a le pouvoir derrière.
Non, mais on est d'accord.
Et la représentation
c'est
publique.
C'est que ça qui est recherché.
Très sincèrement.
Et voilà. Et je crois que c'est pas son frère, mais son cousin.
Oui, c'est son cousin, tout à fait. Voilà. Ouais. Il me semble que c'est ça en plus. Je l'avais un petit peu dans la tête. Mais bon, enfin, on met quand même la famille et c'est quand même un.
Bah comme chez les Bolloré. Hein.
Ah ouais, totalement. C'est bien pour ça que je les ai mis dans la même rubrique, les profiteurs. Eh bien, la logique,
quand
même,
ce qu'on fait. Que le capitalisme, c'est le meilleur moyen de faire émerger des figures inconnues. Bah non.
Voilà. Alors j'en avais une bien aussi, j'ai pas réussi à la caser tout à l'heure, elle a rien à voir avec ce qu'on dit, parce que pour l'instant j'essayais de faire en sorte que ça a à voir.
Non mais case là c'est sympa quand même.
La guerre serait un bienfait des dieux si elle ne tuait que les professionnels. Ah, c'est pas mal hein. Donc on va passer maintenant à quand la morale fout le camp, le fric cavale derrière. Mais ça allait un peu aussi avec ce qu'on vient de dire avec Frédéric Mitterrand. Non, vous trouvez pas qu'il y avait à la base un enchaînement?
Non mais on va croire qu'on les travaille les canuts infos.
Purée, juste pour dire que donc quand les éboueurs font grève, les orduriers sont indignés. Celle-là, je l'ai placée. Ouais. Vraiment, je voulais. C'est la meilleure. Je crois qu'elle est la plus connue en fait aussi. Juste pour dire qu'il y a toujours une grève hein, dans les poubelles. Enfin, les poubelles en tout cas, elles sont pas ramassées de partout. Puisqu'on a toujours des grévistes de la société Pizzorno qui se battent pour obtenir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, tout ça.
Bah en fait, faut rappeler qu'à la métropole, il y a deux types de ramassage. Il y a le ramassage dit public qui était en grève et le ramassage dit privé, c'est-à-dire qui touche Villeurbanne et Lyon en fait.
Voilà, donc c'est peut-être que pour ça chez vous, vous avez vos poubelles qui sont ramassées et vous ne sentez pas la grève en fait. Bah oui, vous ne sentez pas l'odeur de la poubelle.
C'est le côté public qui lui a gagné sa grève après.
Voilà. Donc, alors, bon, en plus c'est un mouvement qui est particulier parce qu'ils sont lancés sans syndicat, ils ont même dit crotte au syndicat, ils ont continué la grève. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant hein, dans la manière dont tout ça s'est passé. Ça ne donne rien les négociations.
Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Donc je pense que si toi tu habites dans un quartier où les poubelles ne sont pas ramassées,
t'en as pour un moment.
T'en as pour un petit moment. Là ils se sont fait en plus virer par les flics mardi assez brutalement. Alors que bon franchement ils sont pas méchants. Hein,
oui, parce qu'ils sont devant en fait leur, oui, ils sont ça. Devant l'entrepôt des camions.
Et ils se sont fait virer comme des malpropres, j'aurais se dire, mais vraiment alors qu'en fait. Franchement, d'avoir des grévistes calmos comme ça, c'est hallucinant.
C'est rare.
Quoi. Ouais. Mais... bah, parce qu'en plus, ils se battent avec des arguments. Vraiment des demandes précises. Et ça, c'est quand même assez bien. Nous, on les soutient, bien évidemment.
Ils demandent un truc tout bête, c'est à travail égal, salaire égal. Bah, c'est-à-dire qu'ils veulent les mêmes conditions que les salariés de la métropole.
Et puis,
c'est normal.
Et puis,
quoi.
Rappeler qu'ils font un métier compliqué, difficile, des horaires pas faciles, décalés.
Perd, et on perd entre 15 et 17 ans de vie par rapport à des métiers autres, comme par exemple cadre en entreprise. Voilà.
Ouais, parce qu'il faut rappeler que vos poubelles, quand vous y mettez en plus plein de merde dedans, qui n'ont rien à faire dans des poubelles grises, comme par exemple quand vous cassez un mur, hein, parce que ça se voit des fois dans les poubelles de quartier, les gravats, ça n'a rien à faire dans une poubelle, et en plus de ça, pour un rapport écolo et traitement hein, des déchets, mais en plus de ça, ça leur tue le dos, quoi, parce qu'elle est traitée vos merdes, là, enfin, voilà. Et quand vous mettez aussi, je vais m'énerver deux secondes, non, parce que vous voyez, moi, dans l'immeuble où j'habite, par exemple, je me bats avec mes voisins et mes voisines, non pas sur une histoire de propreté et d'esthétique, mais parce qu'il y a des gens qui bossent. Et quand tu remplis la poubelle verte et jaune, ça, selon, vous voyez, avec, à donf, avec le machin qui déborde, et que du coup, bah, quand les gens arrivent pour la sortir et la mettre au camion, eh ben, y a tout qui tombe. Hein, donc ça veut dire que tu te penches, et quand t'as 12 allées dans lesquelles tu t'as dû te pencher en deux pour ramasser les merdes par terre, que trois abrutis n'ont pas été capables de garder chez eux un peu plus, ou de se plaindre pour réclamer une poubelle de plus. Parce qu'on peut se plaindre et réclamer des poubelles de plus.
On a le droit.
Et oui, on peut le faire. Avant, franchement, la métropole, elle... elle disait c'était chiant, elle voulait pas. Quand on se bat, maintenant on l'obtient, parce qu'effectivement il y a du travail qui est compliqué à faire. Mais enfin voilà, il y a un moment aussi, c'est des métiers où en plus faut dire que la société aide pas, quoi. On est des gros débiles, quoi, et des grosses débiles en faisant n'importe quoi avec nos poubelles, et il y a des gens derrière qui travaillent des métiers physiques et on est là à faire n'importe quoi. Donc moi je veux bien qu'on dise aux enfants, oh, c'est important de recycler, mais ce serait bien qu'on leur explique que derrière il y a des hommes qui travaillent, qui portent des déchets lourds, et que même quand c'est que du papier et du plastique dans une poubelle, et qu'on se baisse trois fois pour ramasser les déchets dans une même allée, ben ça va pas. Voilà, donc il y a un moment, faut prendre conscience de tout ça. Ils ont bien raison de réclamer des primes et des salaires.
Et je vais juste te dire un truc, parce qu'on l'a appris aujourd'hui. La métropole voulait détacher finalement les salariés de la métropole pour venir ramasser les poubelles à Lyon et à Villeurbanne. Et les salariés de la métropole ont dit, eh ben non. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt cool parce qu'il y a une belle solidarité et on leur souhaite de réussir leur mouvement.
Alors peut-être que tu vas pouvoir m'aider pour le dernier sujet. Il y a un mouvement de protestation et de grève de l'entreprise JST. C'est un mouvement qui a commencé le 2 avril dernier, si mes informations sont justes. Et il y a une histoire de convoi exceptionnel de 200 tonnes qui est bloqué et qui est censé aller au port d'Édouard Herriot.
Il a fait 3 mètres.
Voilà. Et l'idée, c'est évidemment de bloquer ce convoi, parce que plus il sera en retard, plus l'entreprise va devoir payer... des petits frais.
Oui, c'est ça. En fait, c'est des pénalités de retard.
C'est ça, des petits frais. Et que plus l'entreprise sera touchée, plus évidemment, ils espèrent que la négociation va pouvoir se faire vite. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être le cas, tout à fait.
Il faut savoir que l'entreprise...
est dans le 8e, déjà, voilà, on pourrait dire ça.
C'est dans le 8e.
C'est une industrie.
C'est une industrie qui a une sorte de double problématique, c'est-à-dire qu'elle a la pression de la métropole pour disparaître, parce que la métropole ne veut plus d'industrie dans Lyon. Donc voilà, et notamment Gérard Collomb, je vais le redire, Gérard Collomb, voilà. Et de l'autre côté, ils ont un patron qui, en fait, lui aimerait bien emmener tout le savoir-faire qu'il y avait dans le 8e ailleurs, mais sans dire où. Voyez.
Et puis surtout se faire apparemment un petit pactole en vendant le terrain aussi. Parce que vous savez, là où est l'entreprise, alors on peut toujours dire que des entreprises polluent, elles sont dans le centre de Lyon, tout ça, on peut en débattre si vous voulez, mais on le fera dans une autre émission. Toujours est-il que là, ce qu'on voit d'abord, c'est quelqu'un qui veut a priori profiter de la valeur foncière d'un terrain, parce qu'il y a un tramway qui va passer.
Ah oui. Le fameux T6.
Et ce qui est marrant, c'est que du coup, avec tout ce bazar, et ben, les travaux du T6 sont retardés aussi. Donc comme quoi, il y a des petites répercussions comme ça quand on se met en grève et qu'on fait les choses avec un petit peu de réflexion derrière. C'est intéressant parce que ça peut aussi amener des pressions politiques sur le patron, parce qu'il bloque quand même un gros chantier. Et un chantier de tramway, c'est pas une petite,
qui est déjà en retard.
C'est pas une petite entreprise. Hein, c'est un gros machin. Avec en plus de la sous-traitance, beaucoup d'entreprises. Et
parce qu'en fait, pour pouvoir passer ce fameux convoi exceptionnel qui devait être le dernier, ils ont retardé les travaux du tramway pour que le camion puisse passer. Et comme le camion ne passe pas, ils ne peuvent pas reprendre les travaux du tramway parce qu'ils ne pourraient pas passer sur les rails. Donc voilà, pour faire très simple, c'est...
Alors, on aurait pu dire que c'est un truc qui va au Tricastin, c'est ça?
Oui, c'est ça. Contenu, oui, parce que c'est de la chaudronnerie en fait de haute précision. Comme
oui, JST, c'est en fait JST Transformateur, vrai nom de l'entreprise.
Et donc en fait, ils faisaient à l'époque de la chaudronnerie haut de gamme. Maintenant, ils font des transformateurs haut de gamme, c'est-à-dire vous savez tout ce qui sert à transformer l'électricité en plus pour monter ou diviser le courant. Et en fait, c'est en gros un énorme savoir-faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui savent faire ça en réalité. Il ne faut pas. Voilà. Et donc, du coup, eux, ils disent nous, on voudrait bien rester et puis avoir du travail et puis que ça ne parte pas ailleurs. Et puis surtout, en fait, ils aimeraient bien surtout qu'on arrête de les prendre pour des imbéciles parce que ça fait 2 ans quand même qu'on leur dit un jour vous restez, un jour vous partez, un jour vous restez, un jour vous partez.
Donc, dans le communiqué. Qui a été transmis de la CGT, des grévistes, on parle quand même d'une dictature, c'est-à-dire qu'il y a une telle pression sur les salariés que, a priori, c'est catastrophique de travailler là-bas.
C'est des conditions de travail assez horribles et surtout, il faut imaginer quelque chose, c'est on vous fait croire en permanence que si vous ne faites pas le boulot, vous fermez. Donc en fait, c'est ça que les gens ont dans la tête, c'est qu'en permanence, on leur dit, vous êtes obligés de faire ça, parce que sinon on ferme. Mais c'est horrible, au bout d'un certain temps, vous pétez une tuile, quand c'est comme ça. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont, comme on dit, les seuls, j'ai horreur de ce mot-là, mais on dit soutien de famille, mais j'aime pas cette... En fait, le seul salaire...
salaire, ouais, ça arrive.
Et donc
souvent,
du coup, eux, ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ils sont coincés. Mais ils ont un beau mouvement de lutte et ils tiennent. Et vous pouvez aller les voir, hein, parce que le piquet de grève est devant l'entreprise. Ouais. Et
il y a des caisses de solidarité qui sont ouvertes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi, même à distance, puisqu'ils ont ouvert un truc en ligne où on peut donner.
Allez les voir directement, c'est mieux si vous
voulez. Voilà. Si vous êtes en plus dans le quartier, dans le 8e, parce que c'est aussi un phénomène, hein, c'est une transformation de quartier. Il y a eu pas très longtemps des mouvements dans le 7e pour parler justement de la transformation du quartier. Mais Lyon est une ville qui va être touchée de partout par ce développement du tramway qui est censé aider les gens, mais qui en même temps fait monter les prix. Et donc, les chasses. Et donc, du coup, va falloir eux aussi leur amener le tramway un jour, parce que du coup, on les pousse.
En fait.
Et puis, c'est aussi que même quand ils arrivent à rester dans les quartiers, les logements sont petits, nazes, crades, et que voilà.
Et il faut voir que les JST ont un bel exemple sous le nez, malheureusement. C'est l'entreprise Alstom qui était au Bon Coin, en fait, à Villeurbanne, donc en fait au bord du périphérique, qui aujourd'hui est en train d'être transformée en. Alors, ils ont repris les murs, mais ils ont fait des lofts magnifiques à 380 000 euros les 35 mètres carrés.
C'est énorme.
Voilà. Donc, je vous laisse juste imaginer. Voilà. Donc, c'est juste fou.
J'espère que tu as des chiottes suspendues au moins à ce prix-là. Quoi.
Je sais pas. Mais quand j'ai vu les prix affichés, j'ai halluciné. Surtout que c'est un quartier qui, quand même, c'est Frédéric Faïs. Hein, donc, c'est pas.
Il y a une partie du 8e, quand même, qui est un quartier aussi difficile, qui est en zone prioritaire.
Et là, on est en train de chasser les gens, très clairement, en partant, en fait, de l'industriel.
Je sais pas s'ils sont en zone prioritaire, mais en tout cas, ils sont en politique de la ville sur une partie.
Mais c'est ça que je trouve très beau, en fait. C'est-à-dire qu'on.
On chasse l'industriel.
On chasse l'industriel. Et puis en plus, on va se faire plein de pognon sur une forme de d'image d'Épinal. C'est-à-dire, tu vois, ancien bâtiment industriel. En fait, ouais, on se fait toujours de la thune sur la gueule de ceux
Et on se fait tellement de pognon qu'ils revendent ça par lot de 35 mètres carrés, je le dis. Parce que les appartements sont plus grands. Vous voyez, c'est l'idée, vous achetez des lots comme on achète des cartes. Donc on voit que c'est quand même de la spéculation haut de gamme. Hein. Voilà.
Alors, celle-là, je ne l'aurais pas fait si j'étais avec Laurent, mais comme vous êtes là, je vais la faire. Fais ce que doit, advienne que pourra.
Ah oui, parce que nous, en fait, on peut comme ça.
Alors, c'est plutôt que peut-être, Laurent, si tu m'écoutes, je suis désolé, il est peut-être moins ouvert d'esprit sur ce genre de truc que je pourrais sortir. Mais sinon, en fait, pour plus sérieusement, du moins, j'avais lancé ce Canu Info avec. L'une de ces citations que je vous ai dit tout à l'heure, et je pensais qu'aujourd'hui, 11 avril, on pouvait être sous ce texte. Toutes les opinions sont respectables. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je dis le contraire. C'est mon opinion. Respectez-la donc. Voilà, parce que je pense que des fois, on dit des choses dans ce Canu Info qui ne plaît pas aux autres. Et qu'effectivement, on pense que les opinions ne sont pas toutes respectables.
Voilà. Et donc, lisez Prévert.
Si vous voulez avoir une autre approche, je ne sais pas, regardez les films sur lesquels il a écrit. C'est aussi une manière d'approcher sa gouaille, ses idées, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé la langue, en faisant des approches absolument magnifiques et en utilisant tout ce que la langue peut vous amener de à la fois sérieux, rigolo, de trompeur. Il a déformé aussi tous les proverbes. Qu'on peut te sortir pour les transformer en donner une autre image. Et puis ces films, ça permet aussi d'avoir aussi les dialogues, autre chose à nous raconter.
Et puis le travail, c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. Voilà. Bah, c'est connu,
c'était
ça.
C'était de lui, ça aussi.
Bah, c'était une maxime qu'on lui attribue, mais je pense qu'elle devait être de lui. Ouais.
Et ben, je lui rends régulièrement.
Je ne suis pas sûre, tu vois, celle-là.
Bah, en fait, les gens disent que c'était sûrement Prévert parce que ça lui ressemblait beaucoup, mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce genre de phrase que vous pouvez.
Sinon, il y avait un autre père qui est aux cieux, restez-y, et nous nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si joli.
Ouais. Voilà. Il aimait pas trop les curés d'ailleurs.
Non, mais c'était joliment dit, je trouve.
Non, mais voilà, il n'y a aucune agression, moi je trouve ça très chouette. Oui. Après, il était aussi rentre-dedans. Hein. Le ministère des Finances devrait s'appeler ministère de la misère, puisque le ministère de la guerre ne s'appelle pas le ministère de la paix. Donc voilà, il touchait à tous les sujets avec beaucoup de beauté et de, comme je disais tout à l'heure, de bienveillance.
Et il a inspiré énormément de monde, donc voilà. Ouais. C'est pas pour rien.
Voilà. On va vous laisser pour ce.
Je sais pas, un peu. Non, reste.
Il n'y a pas d'émission, pas de petite cuillère derrière nous ce soir. Vous les retrouverez l'équipe la semaine prochaine. Laurent devrait être rendu.
Ah mince, on ne peut pas revenir alors.
Ah si. si, vous êtes absolument invité chaque jeudi à venir, il n'y a aucun souci. Plus on est de fous et de folles, plus on rit dans cette émission. Mais oui, je pense que Laurent viendra m'accompagner jeudi prochain.
On peut peut-être dire quand même qu'il y a une. quand même une manif pour le droit de manifester, ce qui est paradoxal.
Voilà, alors, j'allais dire avant qu'on s'arrête là-dessus, que j'ai pas fait d'agenda.
Ouais. Mais le
j'ai
13...
été un petit peu paresseux sur cette question-là. Il y a une manif le 13, alors qui est compliquée, parce que je vous rappelle qu'à Lyon, il y a une interdiction de manifester c'est sur ça. Une partie de la presqu'île, ouais. Qui a donc été établie par la préfecture. Évidemment, en accord avec la ville de Lyon, tout ça, tout ça. Vous avez lu la semaine dernière les plaintes des commerçants. Donc, comment va se passer tout ça, puisque le parcours qui était déposé, évidemment, n'est pas accepté. Bon, voilà, ça, c'est toutes ces affaires-là. Qu'il y a toujours le printemps libertaire, qu'il y a un petit peu plein de choses qui se passent, que dans le 7e, il y a une dimanche, une journée avec des tables de presse. Mmh. Bon, il paraît qu'il va faire froid, c'est manque de bol. Il y a demain soir à la CNT une soirée aussi. Il y en aura une. Jeudi prochain à la CNT aussi avec en mixité choisie voilà, enfin il se passe plein de choses un petit peu encore à plein d'endroits, donc c'est aussi l'occasion d'aller regarder sur internet tout simplement ce qui se passe. Voilà, parce que si vous aurez les infos, les horaires et les lieux et les adresses et tout ça.
Et puis pour les fans de SF, en ce moment, c'est les intergalactiques. Voilà.
Ouais.
Donc voilà. Non, mais je le place.
Il y a Hallucination Collective aussi. Oui. Voilà, de très beaux festivals qui démarrent. Il y a très très belles choses. Voilà, donc c'est aussi toujours un rendez-vous qui est au Comédia. Hein, qui a, voilà. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de trucs en journée. Donc effectivement, ouais, si vous travaillez.
Pas poser des jours. Non, en fait, comme...
Moi, je connais des gens qui le font tellement ils aiment ce festival, Hallucination oui. Collective. Donc je connais un groupe de fans. On va les appeler les fanatiques.
C'est quand même le seul festoche qui peut passer des nanars introuvables des fois, et ils avaient fait ça une année, j'ai trouvé ça génial.
Et ils font, mais oui, mais c'est...
Pas, c'est très bon film aussi, hein, mais
ah, très, très
c'est juste
bon.
Que, mais là ils avaient fait un spécial, ils avaient trouvé des trucs improbables. J'ai trouvé ça chouette.
Voilà, donc il se passe plein de choses, hein. On commence à être dans une bonne période culturelle et militante aussi, donc voilà. Bon, profitez. Voilà.
Profitez, allez vous balader.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus.
C'était un
toujours
plaisir.
Un plaisir de vous avoir. Bah oui, tous les trois, nous sommes des plaisirs. Donc nous sommes très heureux. On vous laisse donc avec les bandes continues. On vous rappelle qu'il y a la causerie dimanche.
Oui, et on reçoit les membres de Nara. C'est de la pop franco-tunisienne.
Ouh.
Eh ouais.
Eh ouais. Ça rigole pas.
Hein. Bah, j'espère que si.
Non, bah, c'est la causerie quand même.
Non, bah, on serait déçus sinon. Bon, allez, on vous laisse. On vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes. Ciao,
bonne
ciao.
Soirée.
Salut.
Ciao.